le 6-9 de l'été sur France Inter.
Bonjour Nadim Houri.
Bonjour.
Nadim Houri, vous êtes le directeur exécutif d'un think tank, un cercle de réflexion arabe réforme initiative. Après la catastrophe de mardi à Beyrouth, au moins 158 morts, une vingtaine de disparus, plus de 6000 blessés, des milliers de sans-abri. Des milliers de Libanais ont manifesté leur colère hier. Ils ont pris d'assaut les ministères des Affaires étrangères, de l'économie, de l'énergie, le quartier général de l'association des banques. Manifestation violente d'une population exaspérée. Nadim Houri, il y avait des manifestations pacifiques à l'automne. Est-ce que là, on est en train d'assister à une forme de révolution au Liban ?
Je pense qu'il y avait déjà une révolution en octobre qui a commencé au Liban, dans le sens où les gens sont en train de remettre en question tout le système. Hier, effectivement, il y avait peut-être des demandes, je dirais, plus musclées en rentrant dans ces ministères. En partie parce que les manifestants ont senti qu'il y avait une violence structurelle de la part de l'État. Ce n'était plus simplement un État qui les néglige, qui les ignore, mais en laissant pendant 6 ans ces nitrates d'ammonium, cette bombe en plein milieu de la population, beaucoup de gens sentent que l'État les a agressés et que le compromis n'est plus possible et qu'il faut qu'il y ait un changement. Donc je pense qu'on va vers une certaine confrontation. Le résultat est toujours pas clair. Mais les choses ne peuvent plus rester telles quelles.
Le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé hier des élections législatives anticipées. C'est la solution de la dernière chance pour le pouvoir en place ?
Pour le pouvoir en place peut-être, mais pas pour les manifestants et les révolutionnaires. Les élections anticipées ne seront pas la solution actuelle au Liban pour deux raisons principales. La première, il faut savoir qu'au Liban, chaque élection vient avec une loi électorale différente. Et souvent, cette loi électorale adoptée par la classe politique actuelle est faite sur mesure pour s'assurer que les mêmes têtes regagnent dans les élections. Donc, les élections anticipées, tant qu'il n'y a pas une période de transition, ne vont servir qu'à renouveler la même classe politique. Et deuxièmement, il y a aussi le problème de la gestion de la crise là, immédiatement. On l'a entendu durant la visite du président Macron. La population libanaise ne fait plus du tout confiance à ce gouvernement, à cette classe politique. Ils ne veulent même pas que les aides internationales passent à travers le gouvernement. Ils ne voient pas comment le gouvernement peut gérer les négociations avec le FMI et d'autres institutions internationales vu la situation économique. Donc les élections anticipées ne peuvent pas, dans le cadre actuel, aider le Liban dans l'immédiat. Oui, il va falloir avoir des élections pour renouveler la classe politique, mais dans un an, dans deux ans, une fois qu'il y a eu à nouveau une forme de confiance.
Mais vous dites quoi, Nadim Houri ? Ce que propose le Premier ministre Hassan Diab, c'est une forme de piège pour rester au pouvoir ?
Oui, pour la classe politique actuelle. Il faut que le gouvernement actuel démissionne, qu'il soit remplacé par un nouveau gouvernement de transition, de sauvetage national, un gouvernement qui ne soit pas lié à la classe politique actuelle, pour gérer cette période de transition. Je veux dire, jusqu'à maintenant, après cette terrible explosion, où il y a des responsabilités jusqu'au plus haut niveau de l'État libanais, aucun responsable ne s'est déclaré, personne n'a posé sa démission, personne n'a posé d'explication. C'est pas simplement une question d'élection, c'est une question de système. Donc oui, je pense que c'est une manœuvre tacticienne, pas pour nécessairement pour le gouvernement rester au pouvoir, mais pour la classe politique de rester au pouvoir. Il faut savoir que le Premier ministre, Hassan Diab, est simplement un employé chez la classe politique actuelle.
C'est-à-dire,
il ne représente rien politiquement. C'est quelqu'un, après la révolution d'octobre au Liban, les têtes traditionnelles au Liban, les Aoun, Nasrallah, Jaja, Jumblat, Habib et compagnie, n'arrivaient plus à gérer. Donc ils ont mis quelque part, et je suis désolé du terme, une marionnette. Ils ont dit, voilà, voici un technocrate qui va vous gouverner. Mais au fait, toutes les décisions clés, et le Liban en a beaucoup à prendre cette période-là, parce que le Liban est en faillite, le Liban est devant une grande crise, sont prises par les mêmes 6 oligarques qui nous dominent depuis 30 ans. Donc aujourd'hui, ce gouvernement peut être remplacé par la même classe politique, on aura les mêmes résultats. Comment s'en sortir de ce piège ? Eh bien, il faut rentrer dans une période de transition.
Mais excusez-moi, s'il faut un changement, un gouvernement de transition, est-ce que les Libanais, aujourd'hui, ont quelqu'un pour le mener, ce gouvernement de transition ? Qui ?
La question n'est pas de voir le personnage, mais sur quel programme. Je pense qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de talents hein, chez les Libanais. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être. Mais il faut sortir du personnage pour dire un gouvernement avec quel mandat. Et je pense que c'est ça la différence. Tout le monde est en train de dire bah, où est l'alternative. En fait, l'alternative n'est peut-être pas dans les personnes, mais dans les programmes. Et je pense aujourd'hui qu'il y a des nouveaux partis d'opposition, il y a des nouvelles initiatives qui sont en train de proposer des plans concrets. On peut trouver les personnages qui peuvent porter cela. Il y a dans la société libanaise beaucoup de personnes qualifiées pour porter ce message. Donc, et vraiment, ce sera pour une période de transition, pour préparer les élections, pour adopter une nouvelle loi électorale et surtout, pour renouer là, dans l'urgence, la confiance. Est-ce qu'on peut imaginer une seconde les mêmes personnes qui, alors qu'on sait très bien qu'une lettre avait été envoyée le mois passé au Premier ministre, au président libanais, en leur disant il y a presque ces 3000 tonnes d'explosifs qui sont là dans le port et rien n'a été fait pendant des semaines. Rien n'avait été fait par les gouvernements successifs pendant 6 ans. Pourquoi les Libanais auront confiance dans des personnes issues encore de la même classe politique pour diriger un gouvernement? Il faut renouer la confiance. Il faut que ça soit fait sur un nouveau programme avec des nouvelles personnes.
Et le Liban est un parti multiconfessionnel, Nadim Houri. Est-ce que les partis religieux, notamment le Hezbollah, vont laisser faire?
Écoutez, non, bien sûr, personne ne veut lâcher prise. C'est pas simplement. Donc, c'est même pas des partis religieux, c'est des partis sectaires avec des intérêts très, très personnels. Et on sait très bien qu'ils ne veulent pas laisser le pouvoir, pas parce qu'ils représentent leur confession ou leur groupe confessionnel, parce qu'ils en profitent, parce qu'ils ont volé les ressources de l'État pendant 30 ans. Après, aujourd'hui, la classe politique est elle-même dans une impasse. Ils n'arrivent plus à gérer le pays. Il faut les voir, ils n'arrivent plus à rien faire. Ils n'arrivent même pas à présenter des chiffres unis sur l'état de l'économie pour des négociations avec le FMI. Donc, ils ne veulent pas céder le pouvoir, mais je pense qu'en même temps, ils sont en train de réaliser qu'ils ne peuvent plus gouverner. Donc, est-ce que cela va permettre un espèce de sursaut pour dire, d'accord, on va permettre une période de transition? Bien sûr qu'ils vont contester les prochaines élections. Et là, à voir si la population libanaise va finalement s'assurer qu'ils ne soient pas réélus. Mais je pense qu'ils sont devant un piège. Je pense que le Hezbollah ressent aussi qu'il est devant un piège. La colère des Libanais envers le Hezbollah n'a jamais été aussi élevée. Les Libanais tiennent le Hezbollah, comme les autres partis confessionnels, responsables de ces échecs répétitifs. Donc je pense qu'il y a une opportunité et il faut qu'il y ait cette pression de la rue avec une pression internationale à ce que cette classe politique laisse l'espace pour une période de transition.
Est-ce que finalement, ce qui est arrivé aux Libanais là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais finalement, c'est peut-être le meilleur espoir du véritable changement?
Écoutez, j'espère. Hein, j'espère. La tragédie est sans nom, et peut-être qu'il faut trouver du positif dans ce qui s'est passé. C'est peut-être pas la goutte d'eau, c'est peut-être le seau de sang de trop. C'est le nombre de victimes de trop. Vous savez, cette classe politique était en train de tuer les Libanais depuis maintenant plein d'années. Parfois, ils le font par leur négligence, leur criminalité, leur incapacité à gouverner. Les Libanais meurent de problèmes sanitaires, etc. Et aussi, ils sont en train de les tuer comme ça, en masse, avec des négligences criminelles. Donc, il faut que ça soit là. Il faut que ça soit l'événement qui pousse au changement.
Nadim Houri, une conférence des donateurs va avoir lieu cet après-midi, coprésidée par Emmanuel Macron avec les Nations Unies. Quel rôle peut jouer la communauté internationale?
Essentiel. Le Liban est à genoux aujourd'hui. Il importait près de 80% de ses besoins alimentaires à travers le port de Beyrouth. La communauté internationale doit bien sûr être à côté des Libanais et du Liban au niveau de la gestion humanitaire, mais avec une question essentielle, comment s'assurer que l'aide humanitaire ne sert pas à redonner de l'oxygène à cette classe politique corrompue, parce qu'on sait très bien qu'ils attendent à utiliser cette aide pour renflouer leur caisse, la caisse de ces partis politiques, et renforcer leur clientélisme. Donc il faut s'assurer un maximum de transparence, il faut autant que possible soutenir la société civile et les indépendants, et ne pas donner de l'oxygène à cette classe politique corrompue.
Et c'est la question que je pose. Emmanuel Macron est en avant-poste, il est allé à Beyrouth. Jusqu'où peut aller la pression française?
Je pense que la pression française est essentielle et il faut qu'elle soit coordonnée avec le reste des acteurs internationaux. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fin de compte, cette classe politique qui n'a plus les, elle n'arrive plus à puiser les ressources dont elle a besoin du Liban. Hein, ils ont poussé le Liban à la banqueroute. Il n'y a plus d'argent. Et aujourd'hui, ils espèrent que ça va être encore une fois la communauté internationale qui va leur donner une légitimité.
Mais est-ce qu'on peut imaginer un mandat international qui gérerait le Liban?
Non.
Non.
Non, je pense qu'il y a eu des Libanais qui l'ont demandé, mais je pense que c'est plus un cri de frustration qu'autre chose. Moi, je n'y crois pas du tout. Non, les Libanais doivent se prendre en main. Mais bien sûr, toute période de transition a besoin d'assistance internationale. La France a un rôle à jouer. Il y a un rôle historique. Après tout, ce système de gouvernance actuel, quelque part, la France a aidé à le créer. Et la classe politique actuelle, la France n'a pas simplement été l'ami du Liban et des Libanais. La classe politique française a été aussi l'ami de cette classe dirigeante libanaise. On sait très bien que le général Aoun a passé des années d'exil ici. On sait très bien que le président Macron s'est déplacé en Arabie Saoudite pour quelque part, entre guillemets, sauver le premier ministre Habibi. On sait très bien que le président Chirac avait soutenu Wafi Habibi. Il faut aujourd'hui que le président Macron, la France et la communauté internationale mettre en avant leur amitié pour les Libanais et pour le Liban et quelque part laissent tomber leur soutien à cette classe politique corrompue.
Merci beaucoup Nadim Houri d'avoir été en ligne avec nous ce matin. À suivre après le journal Les Premières et l'incroyable Violette Maurice, Very Good Trip et Bob Marley et puis Alex Vizorek pour l'humour avant 9h. France Inter, il est 8h.